et ce sont des nœuds qui ont une présentation alternée sans rupture. Donc on peut les colorer avec deux couleurs. Ce sont donc deux objets qui se trouvent dans la planche de dessin qui me sert de guide. Ce sont ces deux objets qui sont en plus des lignes qui étaient déjà dans le livre Nœud. Donc ces deux premiers objets qui créent une surprise. Qu'il ne s'intègre pas simplement et directement alors qu'ils existent dans les processus de mouvement et de transformation qui relient les autres objets. Et les autres objets, c'est le trèfle, le lacan, le cinq trèfles, un lacan à sept, et puis il y a trois d'autres non-nœuds qui sont obtenus par déformation, par des mouvements nœuds. La question est, quelle est la relation de ces deux objets supplémentaires avec les autres?
Le deuxième, je le fais au coloriage aussi.
Donc ces deux objets, d'après la proposition que je fais, ce qu'on peut appeler, ce que je propose d'appeler la théorie des non-nœuds, c'est le début de la théorie des non-nœuds, ça sont deux non-nœuds, c'est la théorie des nœuds propres, ça c'est deux nœuds, qui sont des non-nœuds mais qui font partie des nœuds propres. Dans cette théorie des nœuds propres, c'est comment mettre à l'épreuve cette... Alors, est-ce qu'il s'agit d'une hypothèse ou c'est un principe que j'ai proposé à la fin de nœud. Chaque nœud propre, et pour l'instant je m'occupe que des non-nœuds, c'est ça le point. La difficulté que ça peut faire pour vous, c'est une difficulté que je rencontre moi-même, ce qui me fait faire ce genre de lapsus, c'est que j'ai aperçu cette possibilité dans la table, en numérotant le nombre de nœuds dans la table de nœuds, de Rolfson. En cherchant le nombre de nœuds de chaque objet, de chaque nœud propre. Et ce qui m'est apparu, c'est que parmi les nœuds propres, il y a les nœuds bicolorables, comme cela, donc comme le nœud de Lacan, qui partent en flèche. Vous voyez, jusqu'à... pour trois croisements, il y en a un, pour cinq croisements, il y en a deux, pour sept croisements, il y en a quatre. Et si on va ensuite à 9 croisements, là ça commence à devenir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au moins, et il y en a d'autres qui sont soit réguliers, soit comme cela, qui partent en flèche, c'est-à-dire qu'ils arrivent très vite à faire beaucoup de nœuds. Il y a beaucoup de nœuds dedans, alors qu'il y a très peu de croisements. Jusqu'à, vous voyez, à 9 croisements, on arrive à 10 nœuds. Donc, il y a une espèce de processus exponentiel qui apparaît avec les nœuds bicolorables parmi les nœuds propres. Bon, donc, je me suis posé la question, peut-être que si vous y réfléchissez, il suffit pour ça de faire l'exercice que j'ai fait, c'est-à-dire compter le nombre de nœuds qu'il y a dans chaque nœud propre, dans la table de Rolfsen qui est disponible sur le site que nous avons mis en place. Là, c'est même dans la page, le site, je crois, de topologie en extension, n'est-ce pas ? On peut trouver la table de Rolfsen. Bon. Alors, si on fait cet exercice, on constate ce que je vous dis, c'est que les nœuds qui ne nécessitent pas de coupure d'un côté ou de l'autre, compte tenu de la dualité, compte tenu que on peut chercher à colorer les parties qui sont vides, donc c'est cela ce que j'appelle d'un côté ou de l'autre, c'est ce que j'appelle la dualité. Compte tenu de la dualité, il y a un des deux côtés qui est sans coupure. Et puis de l'autre côté, ben, il y a une coupure qui passe par tous les croisements. J'ai appelé ça des nœuds purs. Il n'y a pas de partie non nœud. Bon. Alors, vous pourriez réfléchir à ce premier constat. C'est ce que j'ai appelé ce qui part en flèche, là, cet aspect exponentiel des non-nœuds parmi les nœuds propres. On peut en tirer peut-être d'autres conclusions que celles que j'ai tirées moi, puisque moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est l'idée que ils allaient nous mettre sur la piste des chaînes borroméennes génératrices de tous les nœuds propres. Moi, je me suis dit, ceux-là, ils ont quelque chose de remarquable. C'est peut-être pour ça que Lacan a appelé le premier nœud de Lacan. Alors là, il y a un premier point. Il faudrait déterminer vraiment ce qu'on appelle, enfin vraiment, définitivement, il faudrait fixer ce vocabulaire. Qu'est-ce qu'on appelle nœud de Lacan ? Lacan, il dit, il y a un nœud, il dit, appelons-le le nœud de Lacan. Est-ce qu'il y a des nœuds de Lacan ? Puisqu'il y a des nœuds de Whitehead, puisqu'il y a des nœuds borroméens. Alors, le nœud de Lacan, ce qu'il caractérise, c'est ce caractère bicolorable sans coupure. Est-ce que tous les nœuds bicolorables sans coupure propres, parce que c'est le cas des enlacements et des chaînes olympiques, quand il y a plusieurs ronds, est-ce que tous les nœuds propres qui sont sans coupure sont des nœuds de Lacan ? Ben, au point où j'en suis, je commence à en douter. Pourquoi ? Parce que vous voyez, dans ce panneau, dans cette page que je vous ai envoyée, dans cette page que je vous propose d'imprimer avec une imprimante couleur, vous voyez que si je regarde les chaînes que j'ai obtenues qui correspondent à ces nœuds, ça c'est déjà fait à la fin de nos doses de nœuds, vous voyez que les seules vraies chaînes borroméennes qui sont vraiment borroméennes, ce sont celles qui sont sur la ligne oblique qui est là en haut. Et que les autres qui sont dans le ruissellement, là, qui descendent, ceux qu'on connaît, il y en a deux qu'on ne connaît pas, qu'on va étudier maintenant. Mais ceux qu'on connaît, ils sont obtenus en faisant des mouvements nœuds sur ces premières chaînes, qui sont borroméennes. Mais ces mouvements nœuds sont des mouvements nœuds sur deux fils. Ça veut dire que c'est un mouvement hybride, ça veut dire que ça introduit un nœud Whitehead. Ça veut dire que ça détruit la qualité proprement, purement borroméenne. Ça devient ce sont des chaînes qui sont sans enlacement, qui sont des chaînes nœuds, mais qui ne sont pas borroméennes. Les seules borroméennes sont celles qui sont en haut. Bon. Donc, les nœuds de Lacan, on pourrait dire que c'est le dual du trèfle, le nœud de Lacan, puis la suite des nœuds de Lacan qui vont continuer. On trouve toujours ce, vous voyez, un enlacement d'un côté et puis une ribambelle de croisements en dessous. Et si on va jusqu'à 9 croisements, on en a un là qui est comme ça aussi, qui est en haut. Bon. Ça pourrait être les nœuds de Lacan. Et les autres seraient des dérivés des nœuds de Lacan. Je pense que les conséquences de toutes ces études vont nous faire progresser dans la détermination de ces propriétés et donc de ceci afin de pouvoir préciser justement les définitions. Bon. Alors, il est remarquable tout de même qu'on retrouve un borroméen parmi ceux qui nous surprennent là. Les deux qui nous surprennent, il y en a un des deux, il correspond à un borroméen. Comme ceux de Lacan. Donc ça, ce serait peut-être justement un nœud de Lacan, une nouvelle série de nœuds de Lacan. Vous voyez, ça bourgeonnerait là. Et par des mouvements hybrides, on peut le transformer en celui-ci qui vient d'un borroméen, mais aussi dans lequel il y a un whitehead. Il y en a même deux. Et puis dans le 5 trèfle, ça c'est un des premiers résultats surprenants sur lequel j'attire votre attention. Dans le 5 trèfle, dans le nœud propre, tous les croisements sont pareils, donc c'est circulaire, on ne voit pas très bien comment on pourrait distinguer, mais si on se donne la peine de lire les nœuds propres grâce aux chaînes borroméennes et whitehead, et bien là on s'aperçoit qu'il y a deux sortes. Il y a deux sortes de mouvements nœuds dans le 5 trèfle. Là, il y a un nœud, là, il y a deux nœuds, là, il y a trois nœuds. Dans le 5 trèfle, il y a trois nœuds. Ben, il y a un nœud impropre, un mouvement nœud proprement impropre, borroméen. Un deuxième qui fait du borroméen encore, ça c'est borroméen. Et puis, il y a un mouvement de whitehead. Mais du fait de la mise en continuité, dans le 5 trèfle, il n'y a aucun moyen de distinguer le fait qu'il y ait deux types de mouvements nœuds, puisque tous les mouvements nœuds qu'on fera sur le 5 trèfle sont des mouvements nœuds propres. Bon. Donc il faut déjà, pour poursuivre mon propos, il faut que vous ayez la notion qu'il y a trois sortes de mouvements nœuds. Il y a les mouvements nœuds propres, il y a les mouvements nœuds impropres, et puis il y a les mouvements nœuds hybrides qui apparaissent là. Alors, celui qui correspond à celui-ci, est-ce qu'il est lui aussi borroméen? Celui qui correspond à celui-ci, il est borroméen. C'est ce que je vous ai envoyé, les chaînes, c'est ce que je vous ai envoyé sur une deuxième feuille. Quelle est la feuille que vous avez reçue? Quelqu'un peut me montrer la feuille que j'ai envoyée, la deuxième feuille? Parce qu'il y a deux, moi j'en ai tiré deux pour moi. Je vais vous le montrer. Vous n'avez pas la deuxième feuille là? Personne, non?
C'est ça?
Ouais, c'est ça, voilà. Vous avez celle-ci, hein. C'est la même que ça, non?
Deux, trois, quatre.
Hein, il y a un, deux, trois, quatre, cinq figures ou quatre figures?
Quatre.
Cinq.
Quatre.
Ah, quatre.
Mais la une, elle, le 1 manque.
Ah oui.
Ça commence
de 13.
C'est
ça, oui, il y en a 4. Bon, c'est pas grave. Bon, je vois laquelle je vous ai envoyée. Bon, alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envoyé la deuxième. Bon, donc allons plus lentement. Il y a des mouvements nœuds propres, des mouvements nœuds impropres et des mouvements nœuds hybrides. Ce qui concerne cette partie de notre étude, c'est les mouvements nœuds. Ici, nous avons affaire aux mouvements nœuds propres. Ici, nous avons affaire aux mouvements nœuds hybrides et aux mouvements nœuds impropres. Bon. Il y a donc ce qui vient faire la difficulté de cette étude, et c'est un truc. C'est quelque chose qui. C'est quelque chose que vous pouvez penser comme ça. Là, il y a un espèce de troisième terme qui vient créer du trouble. C'est pour ça que c'est un domaine, c'est un lieu d'écriture et de lecture un peu spécial. Parce que Vous avez trois types de mouvements de. Si on s'en tient au croisement, les croisements, on en a deux sortes. On a les croisements propres et les croisements impropres. Hein? Ou bien dans un croisement, c'est deux fils qui se croisent, ou bien c'est un seul fil qui se croise. Un fil qui se croise avec lui-même. Donc il y a deux sortes de croisements. Mais avec ces deux sortes de croisements, comme les mouvements nœuds, on les pratique sur des triskels où il y a trois croisements, eh bien, on voit apparaître trois types de mouvements nœuds. Donc il y a quelque chose du 2, d'une opposition propre-impropre, qui donne quelque chose de 3, qui donne triskel avec les trois fils sont le même fil, ou bien ce sont deux fils, ou bien ce sont trois fils distincts. Ça, ça nous fait rentrer. C'est l'aspect logique, l'aspect structural de ces études est caractérisé par ce genre de remarques. C'est très intéressant parce que, n'oubliez pas que derrière toutes ces questions, nous nous intéressons non pas à une représentation de ces choses, mais à voir comment ces éléments peuvent nous servir comme écriture. C'est une théorie de l'écriture que je cherche à faire avec ça. Hein? Bon. À Buenos Aires, j'ai fait le cours là, pendant les deux mois précédents sur la théorie des jeux et le rire, pour voir si dans les jeux et dans le rire, qui semble le propre des sujets du langage, s'il n'y a pas moyen dans tout ce qui est propre au sujet du langage, comme le rire, le jeu, l'écriture. La parole n'est pas propre, puisque la parole, les animaux parlent, dit Lacan. Les animaux parlent. Le chien qui aboie, l'animal qui prend une posture au bord du territoire, pour déterminer ce territoire. Ce sont des paroles. Les poissons qui portent des couleurs, le paon qui fait la roue, tout ça. Toute l'éthologie, ce qui fascine Queloy, il a beaucoup étudié l'éthologie animale, Lacan le cite dans le stade du miroir, Méduse et société, hein? Il cite ça, il a écrit un ouvrage sur qui s'appelle, il a publié un ouvrage qui s'appelle du mythe et des hommes, dans lequel il étudie la menthe religieuse. Il est fasciné par tout ce qui est justement comme ça, dans cette frange qui intéresse, dans laquelle la psychanalyse apporte une réponse différente de celle de Queloy. Queloy, il propose de faire des sciences, d'inventer la notion de science transversale. Mais il essaye, à mon avis, d'esquiver Freud, et vous remarquerez que, justement, c'est le facteur sexuel qui est encore atténué là. C'est pas du Jung, il ne croit pas que la nature sait lire, mais on ne sait pas bien. Enfin, il est entre Jung et Freud, Queloy. Il a étudié aussi les pierres paysages. Bon, mais son livre sur les jeux est tout à fait remarquable. Parmi tout ce qu'on a écrit sur le jeu, je vous conseille de lire le Queloy, ça s'appelle Des jeux et des hommes. C'est pas publié chez Gallimard, ça existe en livre de poche. Je crois que c'est en folio. Maintenant, c'était Idée Gallimard autrefois. C'est quand même la seule personne qui a tenté une classification des jeux et qui, quand il a tenté ça, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'étonnant qui pourrait le mettre sur la piste du freudisme. Mais je crois qu'il ne veut pas. Il s'est fâché avec les surréalistes. Il était plus proche de Breton et de Klossowski, bien qu'il détestait Klossowski, puisqu'il s'est opposé à ce que Klossowski ait le prix de l'Académie française pour un livre qu'il avait écrit. Et il y a une lettre de Pollan qui explique à Queloy qu'il se trompe complètement. Et Pollan, dans une lettre de plusieurs pages, prend soin de démontrer à Queloy que toutes les fautes de français que Queloy reproche à Klossowski sont c'est du français excellent. Moi, je me suis un peu intéressé à Queloy aussi parce qu'il a passé la guerre en Argentine. Il était allé là-bas cause de Madame Ocampo. Je ne sais pas si on dit Madame ou Mademoiselle, d'ailleurs. Et puis, qui connaissait Lacan, elle avait rencontré Lacan à Paris. Elle avait écrit à une amie ou à sa sœur. J'ai rencontré un psychiatre, il s'appelle Lacan. Formidable, formidable, formidable. C'est pas mal comme commentaire. On est dans les années 30, hein. C'était avant la guerre. Bon, ensuite, Queloy, il est allé là-bas, et il a passé la guerre là-bas. Les Français ont voulu le maintenir là-bas pour qu'il assure la présence française. On lui a envoyé sa femme. Parce qu'il lui prétextait de vouloir venir rejoindre sa femme pour revenir en Europe. L'administration française, qui est ce qu'il en restait, lui a envoyé sa femme. Bon, alors Queloy, voilà, Méduse et Société, Lacan le cite. Mais ces sciences transversales, vous voyez, transversales comme une. C'est très imprégné d'ethnologie aussi. Il a beaucoup lu, il a lu Laura Modor, il a lu Fraser, il a lu Mauss. Bon, de son seul. Il est proche du collège de sociologie de Bataille. Il s'écarte des surréalistes. Et il a connu Lacan, il a assisté à la soirée où Lacan est venu dans le groupe surréaliste, la seule fois où il a assisté à la réunion. C'est Queloy qui raconte ensuite que la séance suivante, dans quelques semaines plus tard, Lacan a envoyé au groupe surréaliste un faire-part de son mariage. Et alors, Breton a reçu le faire-part de le mariage de Lacan, il s'est levé dans le café, là où il se réunissait, il s'est levé, puis il a pris le faire-part et il l'a déchiré en disant « Chez les surréalistes, on ne se marie pas. » Ça, c'est Queloy qui raconte ça dans une émission de télé, une interview à la fin de sa vie. Bon, donc tout ça pour vous dire que qu'est-ce qui se passe là, c'est très étroit comme passage. Parce que est-ce que la nature sait écrire, est-ce que la nature sait lire, est-ce que le dieu de la nature, le dieu pense, sait lire? C'est ce que Lacan explique dans la dernière leçon du séminaire l'identification. Il dit que pour Aristote, dans le traité de l'âme, il a une telle notion, cherchez pas ça dans l'Organon, c'est dans le traité de l'âme, il a une telle notion de ce que c'est que l'universel. Pour Aristote, l'universel, c'est on ne peut être que hérisson ou non hérisson. Le fait qu'il y ait deux possibilités, tout ce qui n'est pas hérisson est non hérisson. C'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur du sujet. Vous voyez, chez Aristote, ça se passe comme ça. Vous avez les hérissons ici, les porc-épics, et ici vous avez les non-hérissons. Mais on ne parle pas de ce qui se passe autour. Tout ça, ça se passe à l'intérieur du sujet. S de X. Hein, donc ça fait. Il y a quatre énoncés catégoriques chez Aristote, mais ils se situent toujours que dans ces deux zones-là. On s'intéresse pas. Vous voyez, aujourd'hui, un diagramme de l'Hervelle, il se fait comme ça. Ça, c'est le sujet. Et ça, c'est le prédicat. Ça, c'est dans le sujet. Parmi les animaux, il y a des hérissons et des non-hérissons. Vous voyez ? Alors, ça, c'est Aristote. Et ça, c'est pas Aristote. Ça commence avec Boulle. Boulle, il écrit 16 énoncés catégoriques, 8 énoncés catégoriques au lieu de 4. Et c'est pour ça que vous voyez Lacan faire des schémas comme ça dans son séminaire L'acte analytique. Dans L'acte analytique, Lacan, justement, il va discuter ses façons de faire. Mais dans l'identification, il nous donne la clé. Il nous dit... Vous voyez bien que tout ce qui n'est pas hérisson et des non-hérissons, ça ne va pas. Et alors il dit, je vais prendre un exemple, et il prend un très joli exemple, ça je le laisse à votre appréciation, parce que si quelqu'un voulait écrire un commentaire là-dessus, Lacan nous dit, j'ai qu'à prendre un exemple simple qui me tombe sous la main immédiatement. Tout ce qui brille n'est pas en or. c'est le contre-exemple qu'il propose pour s'opposer à la logique d'Aristote. Mais dans l'identification, Lacan explique que cette logique où tout ce qui n'est pas hérisson est non hérisson, ça le conduit à considérer qu'il a une notion de l'universel qui est limitée au sujet. Et du coup, c'est toute la question du référent, vous savez, du cadre qu'on met autour des diagrammes de l'Hervel. Parce que ça, on peut l'entourer en plus avec un rectangle. Bon. Et il dit, cet universel dont il a l'idée, Aristote, à partir de sa logique, eh bien, ça le conduit à cette croyance selon laquelle le dieu de la nature, le dieu Pan, sait lire. Eh bien, il nous dit, et Kant y croit aussi. Kant, il dit, toute la logique est sortie, toute faite de la tête d'Aristote, il n'y a rien à faire d'autre. Et donc, Kant, encore, juste avant Hegel, moi je tiens que c'est Hegel qui va rompre ça, et qui va rendre possible Marx, Freud, mais aussi Frege, Boulle. Enfin, c'est quand même remarquable qu'on ait vécu avec la logique aristotélicienne et les idées comme celles de Kant, de considérer qu'il n'y avait rien à faire d'autre comme logique pendant 2500 ans. Ben oui, depuis Aristote.
Est-ce que c'est lié au fait que la logique d'Aristote serait une logique d'essence ? C'est-à-dire l'essence se déploie, donc...
Oui, vous pouvez maintenant chercher des raisons à ça. Mais voyez, Lacan, il nous dit une chose qui nous importe, nous, et qui va nous ramener à Queloy et aux difficultés que tout le monde rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je pense que ça prend ça a des conséquences extrêmement graves. Alors, ça vaudrait le coup de chercher à le rapprocher, à le rapporter effectivement à des considérations relatives à l'essence ou à l'existence. Il y a quelque chose qui n'existe pas. Et moi, j'ai montré que on peut écrire les formules de la sexuation côté homme dans ce genre de schéma, mais pas le côté femme. Donc, il faut sortir de cet espace aristotélicien logique qui a survécu pendant 2500 ans sans qu'on y touche. Même, vous voyez, quand Descartes modifie la géométrie en introduisant l'algèbre dans la géométrie, il n'introduit pas l'algèbre dans la logique. Ça, c'est pas immédiat. Déjà, il faut attendre l'existence de Dieu, à mon avis, et la science galiléenne. Galilée dise que la nature s'écrit en mathématiques pour que Descartes fasse une géométrie pour faire une physique, ce que jamais personne n'aurait fait avant lui. Ça, c'est Coiré qui explique ça. Ça, c'est Cogel également. C'est les auteurs qui l'expliquent le mieux. Canguilhem également, c'est les meilleurs auteurs sur cette question de l'apparition de la science moderne, qui est littéralisée principalement, plus qu'empirique. Ça, c'est une idée de Milner, mais Milner, là, à mon avis, il se laisse entraîner par la mode, par l'ambiance qui s'est commencée à se développer à partir des 70, les années 70, et qui a donné ce que nous connaissons aujourd'hui, la domination du cercle de Vienne. Donc Aristote, Lacan nous dit à la fin du séminaire de l'identification, faites attention, l'affaire Jung nous a soigné de ça. Freud, avec l'affaire Jung, nous a soigné de ça. Nous, je ne sais pas qui c'est nous, parce que peut-être que Freud a soigné Lacan, et lui-même, il s'est soigné, il a soigné Lacan de ça, mais je crois que beaucoup sont dans cette croyance que tout ce qu'on raconte sur les psychothérapies me fait penser ça, que le dieu de la nature sait lire, ce qui est à mon avis ruineux pour la pensée. Pourquoi?
Parce que si le dieu de la nature sait lire,
Vous allez avoir du mal à faire la coupure qui est très étroite, qui est très difficile, que Queloy n'arrive pas à faire. La coupure entre ce qui est Freud et ce qui est Jung. Parce que pour Freud, vous avez cette discussion justement sur les épiphanies comme celle de Joyce là avec Jung. Est-ce que la commode c'est et dans le langage, la commode qui grince. Il y a une discussion de Jung avec Freud, dans le bureau de Freud. Jung fait remarquer à Freud que la commode intervient dans la conversation.